Les castors de Mérignac, l'histoire d'une aventure solidaire. Épisode 4, les jeunesses ouvrières chrétiennes ou la concrétisation d'un rêve. Retour dans l'après-guerre, une grave crise du logement sévit dans le pays. L'économie française peine à retrouver de sa vigueur d'antan. Ginette fait partie de cette jeunesse à subir encore les séquelles de la guerre. Elle est secrétaire à la Caisse d'assurance maladie. Son mari est ouvrier à la SNCF et tous deux viennent d'avoir leur première fille. C'est à ce moment-là qu'ils découvrent le quartier des Fauvettes et sa formidable dynamique. C'est là également qu'officie Étienne Damoran, un jeune prêtre ouvrier, soudeur à Bordeaux, qui améliorera l'existence de dizaines de jeunes couples en devenir.
Pendant la guerre, l'abbé Damoran était, je ne sais pas si c'était vraiment pendant la guerre ou tout de suite après la guerre, il a été prêtre ouvrier. Il avait autour de lui, je vais dire même un essaim, je dis ça de jeunes gens, jeunes filles et jeunes gens, ça s'appelait JOC, Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Et l'abbé Damoran les a encadrés avec un amour comme un père de famille. Il n'y avait rien à se raccrocher. Il y avait la guerre. Pas de loisirs, pas d'argent, des restrictions. La carte pour le pain, la carte pour les vêtements, les tickets de restriction. Donc, qu'est-ce qu'il faisait l'abbé Damoran? Il faisait des réunions, il réunissait tous ces jeunes autour de lui. Et il essayait de leur trouver des loisirs, c'est-à-dire chanter en chœur, faire des petites scénettes de théâtre, voyez. Puis il leur apprenait le partage. Alors ça, beaucoup, il leur a appris à s'aider les uns les autres. Ton papa est prisonnier, ben écoute, viens dimanche chez moi, on fera ça. Voyez, parce qu'il y avait encore beaucoup parmi ces jeunes gens, des parents déportés ou des papas prisonniers, voyez. Et ils vivaient une drôle d'époque douloureuse. Et l'abbé Damoran est un homme extra, mais quand je dis extraordinaire, on devrait le sanctifier, cet homme.
Il a porté beaucoup d'amour.
Ah oui. Et quand la guerre s'est finie, eh bien, tous ces jeunes gens, vous pensez bien qu'il y avait des fiancés là-dedans, que ça a formé des couples. Et alors, il y avait eu beaucoup de destructions par les bombardements, donc des logements, c'était presque introuvable. Alors, il va à Pessac-Alouette un jour, puis il voit un grand terrain en chaume, en friche, avec des arbres, des ronces. Il dit, c'est à vendre. Il est allé sur Antigny et c'était à vendre. Bon, il réunit ses jeunes. Alors, je vous parle, là, c'était 1943, comme ça. Il achète ce terrain et il dit à ses jeunes, alors, vous voulez vous marier et vous n'avez pas de logement. Eh bien, mes petits-enfants, vous allez vous retrousser les manches. Et vous allez venir travailler. Vous allez vous le construire. Ils étaient 120. C'est pas rien. Alors ils ont commencé à défricher le terrain. 120 couplets. Quand ils ont eu fini de défricher le terrain, il fallait trouver des sous. C'est bien joli la main d'œuvre. Mais quand on n'a rien.
Oui, parce qu'il faut des matériaux.
Et dans ma famille, donc la sœur aînée de mon mari, s'est mariée avec un castor de la Louette, Pierre Merle.
Vous ne savez pas que c'est votre beau-frère, Pierre Merle?
Si, c'est mon beau-frère.
Ah oui.
Et puis avec M. Bancon, je ne peux pas arriver à me rappeler le nom du troisième, ils étaient trois. Ils allaient à Paris, au ministère, alors ça s'appelait à cette époque-là ministère de la Reconstruction, puisque nous sortions de la guerre.
Et c'est eux qui sont allés à Paris, là?
Oui. Ils avaient rendez-vous à 9h du matin à Paris, je crois qu'ils avaient roulé toute la nuit. Le ministre les a reçus à 15h de l'après-midi, il les a fait attendre. Et ils ont attendu le temps qu'il a fallu juste à obtenir des sous, et ils les ont obtenus. Et donc à partir de ce moment-là, les castors de Pessac-Alouette ont commencé à creuser les fondations. Ils les ont creusées, madame, à la pioche, comme ici.
À la main. Pas de grue.
À la pioche. 120 maisons, mais... Alors attendez, madame, c'est qu'ils n'ont pas fait qu'un voyage à Paris.
Ah oui.
Oh, parce qu'on n'obtenait pas l'argent comme
oui.
ça.
Oui,
parce que, si vous voulez, il y a eu toute la main-d'œuvre qui a été fournie par les futurs habitants, mais le matériel, il le fallait.
Il fallait quand même le minimum.
Et même, je vais vous dire, entre-temps, mon beau-frère, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est pour vous dire sa droiture, mon beau-frère. Il a pris une des dernières maisons. Je crois que ma belle-sœur attendait le quatrième, il me semble. Et même d'autres castors, c'est vous dire leur entente et leur amitié. J'ai perdu les noms parce que c'était mon mari qui me le racontait. Je sais qu'il y a une autre famille de castors qui était amie avec eux et qui leur a prêté leur maison pendant que la maison de mon beau-frère et de ma belle-sœur se finissait pour qu'ils ne paient plus le loyer là où ils étaient. C'est pour les arranger pendant un mois au moins, ils ont, par mesure d'économie. Oui. C'était une amitié extraordinaire, ça ne se ferait pas maintenant.
Non, parce qu'ils habitaient en même temps dans la maison.
Voilà. Mais non, on ne le ferait pas, parce qu'il n'y aurait pas, cette abnégation de dire on se gêne, mais c'est pas grave, c'est pas pour longtemps, c'est pour leur rendre service. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Bien sûr, oui.
Voilà.
Ainsi pourrait s'achever le récit de Ginette. Mais la cité Castor vibre encore de cette histoire. Il suffit d'aller à la rencontre des anciens et de leurs enfants pour écouter d'autres récits de vie, ceux d'une mémoire ouvrière ou d'employés, qui ont trouvé là un site où s'épanouir pleinement et tous ensemble. Venez donc nous voir et rencontrer notre quartier, la cité Castor de Mérignac, a encore bien des histoires à vous raconter. Au revoir et à bientôt.